Aujourd'hui, Come and Listen vous emmène à la rencontre de Yves Guenbo. Né en Algérie, il est revenu en France en 1962 à la fin de la guerre. À travers une vie remplie de mésaventures, Yves nous raconte ses terribles années de guerre. Dans une interview riche en émotions, nous découvrons ce besoin de mémoire de la part de M. Guenbo. Tout d'abord, bonjour M. Guenbo. Pouvez-vous nous expliquer depuis combien d'années votre famille était installée en Algérie ?
Je pourrais faire un roman de ma vie. On est venu en 1848. Alors, sous Napoléon, on ne sait pas si c'est une histoire politique ou si c'est un problème un peu spécial. À l'époque, on ne divorçait pas. Et l'arrière-grand-mère partie en Algérie sans être mariée avec Guenbo.
Concernant son grand-père maternel, il était cordonnier en Algérie et il a fait sa richesse sur ce métier. En hiver, il aidait les Algériens qui n'avaient pas de quoi manger, mais leur faisait payer le double en été pour cirer les chaussures. Et vous, en Algérie, vous faisiez quoi ?
Moi, c'est tout petit, c'est l'agriculture, c'est être conseiller agricole. Les gens comme moi, on les appelle les pieds noirs. Ils n'auront surtout pas la même réaction que moi, parce que moi, j'étais en bonne intelligence avec les musulmans. Donc, comme je l'ai dit, j'étais conseiller agricole. J'avais tout un secteur très, très important où j'avais une fiche sur tous les fellahs. Les fellahs, c'est les exploitants agricoles musulmans. Et ces gens-là, j'ai travaillé toujours la main dans la main avec eux, et ils m'ont sauvé la vie plusieurs fois. Et le jour où je leur ai dit, moi maintenant, c'est trop risqué pour moi, ma première femme et mes deux fils étaient partis, ils étaient à la Bourboule, elle a eu peur, elle avait raison, hein. Moi, j'étais resté, et ils ont fait une chakaya, on appelle ça une chakaya, c'est une pétition pour que je reste. Alors, on a eu une réunion, je leur ai expliqué, je leur ai dit, moi, avec vous, je reste, mais c'était la wilaya 4, et avec la wilaya 5, s'ils viennent là, ils vont me tuer. Ils m'ont dit, tu as raison. Ils m'ont accompagné jusqu'au... avec la valise, une valise et la porte était ouverte derrière, quoi.
Y a-t-il un événement marquant que vous avez vécu pendant cette guerre ?
Donc moi, j'avais mon secteur à Bordeaux et mon collègue directeur, Gérard Bell, 25 ans, marié depuis 6 mois, me téléphone, il me dit « Vous ne voudriez pas venir avec moi ?» parce qu'on m'a signalé la possibilité de criquet. Donc le criquet, c'est une petite bestiole comme ça et qui devient sauterelle. Et chez nous, ça fait des nuages et ça massacre les moissons, les céréales, etc. Alors, donc l'essentiel, c'est de les prendre tout petits. Et là, Mohamed, je ne sais plus comment, l'avait appelé, lui avait dit, alors donc, mais il a dit on viendra, mais il n'avait pas dit le jour. On avait deux chevaux, camionnettes, pour pouvoir transporter céréales, les produits toxiques, les graines, etc. On en avait une chacun identique. Quand il est arrivé, il m'a dit « Mince, j'ai oublié de faire le plein. Ça ne vous dérange pas qu'on prenne votre voiture ?» On arrive chez le gars, un grand bâtiment à droite, un jardin à gauche, et j'arrive là. Malheureusement, une de chevaux, ce n'est pas nerveux. Voilà. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'ils étaient en rond, fait la gare. Donc j'ai pilé, il me dit « qu'est-ce que vous faites ?» Je dis « fatiguez pas, marche arrière ». Le mec, il était là debout, j'allais repartir, « halte !» Mais j'ai arrêté. Hein. Et donc ils nous ont fait descendre de la voiture. Ils ont demandé à, de rentrer la voiture dans le hangar. Nous, il y avait un grand mur avec des bidons de 200 litres. Et ils se sont mis en face pour nous finir. Et le chef est arrivé, c'était un ancien caporal de l'armée française qui était général, là. Moi, j'avais un avantage sur Gérard. C'est de A à Z, je parle l'arabe couramment. On était là, ils allaient tirer, il est arrivé, lui, le caporal. Il dit non, c'est bien, c'est rien, il nous a baissé les mains et tout, c'est bon, on va vous interroger. Et on est rentré dans le hangar et ils se sont interrogés. Alors vous êtes là pourquoi? Ben on vient pour. Alors Gérard a eu le malheur de leur dire c'est Moulay là qui nous a demandé de venir. Alors moi j'ai essayé de rattraper le coup, j'ai dit mais il nous a pas demandé de venir aujourd'hui, on savait pas quel jour. Ils l'ont massacré. Il a coup de pied dans le ventre. Tu leur as dit de venir quand on était là, etc. Au bout d'un moment, ils nous ont dit, bon, ben, ils m'ont demandé si j'avais des armes. J'ai dit, oui, moi, je vais à la chasse. Ah oui, on te connaît, on t'a vu, on aurait pu te tuer. Et donc, alors pourquoi il a été visé, lui, plutôt que moi? On se met dans la voiture. Il dit, ben alors, à mercredi. Et je dis, mais il n'y a pas les clés. Ah, pardon, alors il me donne les clés et je mets les clés. Quand j'ai vu ça, j'ai vu le mec qui a lâché toute la rafale de la mitraillette sur nous, là. Et moi, j'ai eu un bouton d'arraché et lui, il est mort sur moi. Ses lunettes, elles sont tombées sur moi. Son dernier souffle, je l'ai eu. C'est quelque chose d'horrible. L'autre qui vient pour m'achever... Et son copain qui lui enlève le truc. Qui lui enlève en lui disant tu vois bien qu'il n'est pas blessé. Et alors ils enlevaient les vêtements. Alors là c'était tout plein de sang, le reste plein de sang, et puis j'avais rien. J'étais pas touché. C'est fou. Et donc il a empêché de me tuer. Donc ils m'ont pris, ils m'ont mis dans la camionnette derrière. Et deux minutes après, ils l'ont emmené, ils l'ont mis au fond. Quand c'était en côte, c'était bien, mais...
Mais lorsque la voiture était en descente, tout le sang coulait alors sur Yves. On apprend par la suite qu'il a été kidnappé pendant au moins 3 jours par les Félagas.
Ils m'ont fait des trucs sans trop me toucher, mais horribles. Et surtout le dernier jour... Il s'amène, parce que tous les jours, tous les matins, ils me disaient « Ah, on n'a pas pu échanger parce qu'ils ont échangé, ils m'ont échangé avec trois chefs. » Et le troisième jour, donc, il est venu, il m'a dit « Ah, c'est bon, maintenant, on te lâche, mais il faut que tu sois propre. » Ils avaient récupéré des vêtements. On aurait dit un gamin, et je vais te raser. Alors avec un boussaadi, c'est un grand couteau, là, et il est à sec. Et alors il me met là, comme ça, il y avait une goutte de sang qui commençait à... Mais moi j'étais au bout du bout du bout, j'avais plus peur. Heureusement que c'était une deux chevaux, parce qu'ils me mettent dans la deux chevaux, et pareil. Allez. C'est bon, tu dis à personne que tu nous as vus, rien du tout, pas de problème. Ben elle démarre, ben mets la clé. Pareil! Ça y est, là ils vont te tirer dessus maintenant. J'ai fermé les yeux, j'ai mis en route la voiture, j'ai fermé les yeux. Il y avait des tas de sable ou je sais pas quoi. Ils vont tirer, ils ont jamais tiré. Et j'ai failli me casser la gueule. Et je suis arrivé dans Trumelay, tu regarderas sur la carte d'Algérie, Trumelay, c'est un petit bled. J'arrive là-bas, il y a un bistrot, je rentre, ils m'ont tous regardé. Je suis le seul, tout le territoire des hauts plateaux du Cersou, le seul qui a été relâché. Tous les autres, ils ont été coupés en morceaux, ils ont été tués. pourquoi moi ?
Mais pourquoi n'êtes-vous pas parti avant ?
Je serais parti en 1960. Là, on était en 62. Je serais parti en 1960 parce que mon directeur, avec lequel je travaillais le jour où mon papa a été tué, on dit que c'est le FLN, mais comme c'était mon papa était un peu comme moi, un gros lien avec les musulmans, j'ai toujours derrière la tête un doute. Comme il était pour le rapprochement des deux communautés, c'était un élément qui était perturbateur pour l'OAS, etc. Alors je ne sais pas, parce qu'à son enterrement, il y avait plus d'Arabes que de Français. Ce jour-là, c'est la seule fois de ma vie où j'avais un patron, un chef, qui était extraordinaire, il s'appelait Monsieur Petit. Il était comme Napoléon, il faisait trois choses en même temps. Il téléphonait, il écrivait, et je faisais mon rapport. Continuez, Monsieur Gagné. Extraordinaire. J'adorerais le retrouver. Et lui, il m'a dit, vous avez deux minutes. Devant le corps de mon père, avant qu'on le mette dans le cercueil, il m'a dit, l'Algérie, c'est fini, partez.
Mais de toute évidence, vous n'avez pas écouté Monsieur Petit. Et vous avez décidé de partir 2 ans plus tard. Pourquoi avoir fait ce choix ?
J'avais ma mère et mon jeune frère. Mon jeune frère qui avait 18 ans et qui pensait qu'à une chose, tuer. Il a failli nous faire tuer, d'ailleurs. Finalement, ils ont pris peur. Ils m'ont dit, on s'en va. On avait une maison avec une cour. La voiture était dedans, là. On a eu juste le temps de partir. La maison était occupée. Et ma mère disait, mais j'ai pas pris les photos et tout. C'était le premier qui arrivait à ouvrir la porte. Il est occupé, quoi. Et donc, on était dans la voiture. Et mon jeune frère, vraiment... C'est bon, j'ai mis du sable dans la moissonneuse batteuse, dans les tracteurs, partout. Et j'ai dit, il avait foutu les grenades. Les grenades, il les avait mis sous le... Il a dit comme ça, ils se pèteront la gueule. Imagine si jamais ils ont quelque chose avant qu'on soit parti. On a failli être arrêté d'ailleurs.
Yves et sa famille partiront en 1962. Ils embarqueront à partir d'un port vers Oran et arriveront à Marseille. De là s'en suivra une longue bataille pour s'intégrer en France et être reconnus comme Français. Ils ne partiront qu'avec 27 kilos de bagages pour la France. Tous les souvenirs et autres biens resteront en Algérie. Encore merci à Yves Guenbeau de nous avoir fait part de ce témoignage et d'avoir accepté de nous recevoir. Et enfin, un grand merci à vous qui nous écoutez. Vous étiez sur Come and Listen.